tous. Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, je vais vous lire quelque chose d'un écrivain japonais qui s'appelle Natsume Soseki, né à Edo en 1867 et mort à Tokyo en 1916. Il était professeur, mais il écrivait aussi beaucoup des romans, dont le plus connu est « Je suis un chat », des haïkus et des nouvelles. Et bien, c'est l'une de ces nouvelles que je vais vous lire aujourd'hui. Elle s'intitule « Le professeur Craig ». Oui, c'est un nom anglais. Je précise qu'il parlait parfaitement bien l'anglais. Comme les hirondelles, le professeur Craig a installé son nid au dernier étage d'une maison sous le toit. Même en levant les yeux depuis l'extrémité du trottoir, on n'arrive pas à distinguer ses fenêtres. Une à une, on gravit les marches de l'escalier qui mène à son appartement, et quand les tiraillements commencent à se faire sentir dans les mollets, c'est le signe qu'on est enfin arrivé devant la porte du professeur. J'ai dit « la porte », mais n'allez pas imaginer un portail surmonté d'un petit toit. D'une largeur de moins d'un mètre, c'est une porte noire à laquelle est fixé un heurtoir en laiton. Après avoir repris haleine, j'ai donné un coup de heurtoir et la porte s'est ouverte. La personne qui vient m'ouvrir est toujours une femme. Est-ce parce qu'elle est myope, elle porte des lunettes et semble perpétuellement en proie à l'étonnement. Comme elle paraît avoir la cinquantaine, elle a dû pourtant voir beaucoup de choses dans sa vie, mais décidément, elle s'étonne en me voyant. Elle écarquille les yeux de façon si exagérée en me disant d'entrer que j'éprouve presque de la pitié d'avoir frappé à sa porte. Dès que j'entre, la femme disparaît et le salon dans lequel on m'a introduit, au début, je ne pensais même pas que ce fût un salon, on ne remarque aucun ornement particulier. Il y a deux fenêtres et une grande quantité de livres sont alignés. C'est tout. C'est là généralement que le professeur établit son camp. Dès qu'il me voit entrer, il me tend la main en disant « Tiens !» Puisque c'est le signe que je dois lui serrer la main, je m'acquitte de cette obligation, mais il ne répond jamais à la pression de ma main. Comme je n'éprouve pas particulièrement de plaisir à cette poignée de main, je voudrais y échapper, mais je me laisse toujours aller à dire « Bonjour, moi aussi !» Et comme d'habitude, je serre la main molle, cette main velue et ridée qu'on me tend. Les habitudes sont en vérité une chose bien étrange. La personne à qui appartient la main est le professeur qui consent à répondre aux questions que je lui pose. La première fois que je l'ai rencontré, je lui ai demandé le tarif de ses leçons. « Eh bien, répond-il tout en jetant un coup d'œil par la fenêtre, est-ce que 7 shillings vous semble raisonnable ?» Ajoutant que si je trouvais cela excessif, il était prêt à me demander moins. J'acceptais donc le tarif de 7 shillings que je lui versais en une fois à la fin d'un mois, mais il arrivait parfois que le professeur me réclame impunément l'argent. « Écoutez, j'aurais besoin d'un peu d'argent. Ne pouvez-vous pas me régler maintenant ?» Moi, fouillant dans les poches de mon pantalon, je sortais les pièces et les lui tendais avec simplicité. Alors le professeur, tout en les prenant avec l'air de s'excuser, ouvrait grand sa main molle, regardait un moment sa paume, avant de faire disparaître les pièces dans la poche de son pantalon. L'ennuyeux, c'est que le professeur ne rendait jamais la monnaie. Quand je cherchais à déduire ce montant de la somme du mois suivant, la semaine d'après, à nouveau, il lui arrivait de me relancer, disant par exemple qu'il avait besoin de s'acheter des livres. Il est irlandais et je ne comprends pas très bien ce qu'il dit. C'est aussi difficile à saisir qu'une dispute entre un natif de Tokyo et de Satsuma. Il a un débit précipité, ce qui fait que quand je commence à perdre pied, je m'en remets au ciel et me contente de reporter mon attention sur sa figure. Cette figure non plus n'est pas d'un modèle courant. Comme c'est un occidental, son nez n'est pas aplati, mais plutôt bosselé et trou charnu. En cela, il me ressemble, car vraiment ce n'est pas un nez qui réjouisse la vue, contrairement à la sensation agréable qu'on éprouve devant quelque chose de bien dessiné. Par contre, les poils foisonnent partout sur ses joues et on découvre à ce visage un je ne sais quoi de rustique. Sa moustache, particulièrement, inspire presque la pitié tant elle est poivre et sel. Un jour que je le croisais dans Baker Street, je l'ai pris pour un cocher qui aurait laissé son fouet quelque part. Il ne m'est jamais arrivé de le voir avec une chemise blanche ou un col blanc. Il porte toujours de la flanelle à rayures, a toujours les pieds chaussés de grosses chaussettes qui boudinent, il tend ses pieds vers le poêle comme s'il voulait les y enfoncer, et de temps en temps, il se tape les cuisses. C'est de cette façon que j'ai remarqué pour la première fois qu'il portait une bague en or à sa main molle. Parfois, au lieu de se taper sur les genoux, il se frotte les cuisses et m'enseigne des choses. Je me dois de dire que je ne sais pas ce qu'il m'apprend. Quand je l'écoute, il m'entraîne où il veut et ne me laisse pas échapper. Et les endroits qu'il aime varient au gré des conditions atmosphériques ou du changement de saison. Parfois, entre hier et aujourd'hui, il lui arrive de se transporter d'un extrême à l'autre. Si j'étais méchant, je pourrais dire qu'il enseigne à tort et à travers. Choisissant un jugement positif, je préfère considérer qu'il m'entretient de littérature. À y réfléchir maintenant, je comprends qu'il était impossible de donner un cours structuré et rigoureux à raison de 7 shillings, c'est lui qui était dans son droit et moi qui étais idiot de me sentir lésé. D'ailleurs, tout comme sa moustache en était la manifestation, l'esprit du professeur semblait animé d'un léger penchant pour le désordre, et sans doute avait-il raison de ne pas me donner un cours dans les formes moyennant un tarif plus élevé. Le domaine de prédilection du professeur était la poésie. Quand il récitait un poème, son visage et jusqu'à ses épaules s'animaient d'un tressaillement léger comme la brume printanière. Je n'exagère pas, il tremblait pour de bon. Mais ce n'était pas parce qu'il lisait pour moi, c'était tout simplement qu'il éprouvait du plaisir à lire, même quand il n'avait pas d'auditeur. En somme, je me retrouvais perdant. Une fois, j'apportais Rosamond de Swinburne, et le maître me demanda de le lui montrer. Il en lut à haute voix 3 ou 4 vers, posa immédiatement le livre sur ses genoux, prit la peine d'enlever d'abord son lorgnon et répéta en soupirant « Ah, que c'est mauvais ! Ainsi Swinburne lui-même a vieilli pour écrire de tels poèmes ?» C'est à ce moment-là que je me suis rappelé mon intention de lire « Atalante », le chef-d'œuvre de Swinburne. Le professeur me traitait comme un enfant. Il me posait souvent des questions sans intérêt, me demandant « Connaissez-vous cela ? Comprenez-vous ces choses-là ? » Mais par ailleurs, tout aussi brusquement, il me soumettait une question délicate, me mettant ainsi sur un pied d'égalité. Un jour, alors qu'il lisait devant moi un poème de Watson, il me demanda « Il y en a pour lui trouver des similitudes avec Shelley, d'autres qui prétendent le contraire. Et vous, quel est votre avis ?» Ce que j'en pensais, moi qui n'entendais goutte aux poèmes occidentaux avant de les avoir lus d'abord avec les yeux, puis en second lieu avec les oreilles, je fis une réponse évasive. À présent, j'ai oublié si je pensais pour la ressemblance avec Shelley ou le contraire. Toujours est-il que le professeur se tapa sur les cuisses en me disant qu'il était de mon avis, et je me sentis tout confus. Une fois, comme il tendait le cou par la fenêtre pour regarder les passants affairés dans la rue, ce lointain bas monde, « De tous ces gens qui passent, il n'y en a pas même 1 sur 100 qui entendent la poésie. Quelle tristesse ! Voyez-vous, les Anglais sont un peuple sourd à la poésie. Les Irlandais, par contre, sont admirables. Ils ont un goût artistique incomparablement noble. En vérité, ceux qui, comme vous ou moi, sont à même de goûter la poésie sont des gens heureux, il faut le dire. » Oui, il me fit cette déclaration. Je lui étais fort reconnaissant de me compter au nombre de ceux qui savent apprécier les vers, mais sa façon de me traiter manquait pour le moins de chaleur. Je n'ai jamais perçu chez lui la moindre affection. Il me faisait seulement l'effet d'un vieil homme qui débite mécaniquement ce qu'il a à dire. Pourtant, il arriva aussi que, la pension où je logeais m'étant devenue insupportable, dans la pensée que peut-être on voudrait bien de moi chez le professeur, un jour, après en avoir terminé avec la leçon, du genre que j'ai décrit, je formulai ma demande. Instantanément, il frappa ses genoux du plat de la main et s'écria « Eh bien, venez que je vous fasse visiter la maison !» Il m'entraîna, me montra tout depuis la salle à manger jusqu'à la chambre de bonne, sans oublier la cuisine. J'aurais dû me douter dès le début que son logement ne pouvait pas être bien grand puisqu'il occupait l'angle du 3e étage. En 2 ou 3 minutes, j'avais tout vu. Alors il reprit sa place habituelle. « Maintenant que vous avez vu par vous-même comment est la maison, vous comprendrez qu'il m'est impossible de vous loger. » Et sans transition, il se mit à me parler de Walt Whitman. Autrefois, Whitman avait fait un bref séjour chez lui. Comme il parlait très vite, j'avais du mal à saisir, mais Whitman était venu apparemment de son propre chef. Et dans les premiers temps, à la lecture de certains de ses poèmes, il avait eu l'impression qu'il n'en tirerait rien. Mais à force de les relire, il y avait trouvé de plus en plus d'intérêt et finalement, il en était devenu un fervent lecteur. Voilà pourquoi. Quant à la possibilité de me faire admettre comme étudiant à demeure, il n'en fut pas même question. De mon côté, j'écoutais en lançant de temps à autre des oui, au petit bonheur. À propos, je me souviens qu'il m'avait alors parlé d'un différend que Shelley avait eu avec je ne sais trop qui. Il n'est pas bon de se quereller et je regrette vraiment que deux personnes qui me sont aussi chères l'une que l'autre se soient ainsi opposées. Mais il avait beau protester, la querelle avait bel et bien éclaté, voilà de longues années, on ne pouvait rien y changer. Le professeur était très distrait et il lui arrivait souvent d'oublier où il avait mis ses livres. Quand il n'arrivait pas à les retrouver, il s'énervait et criait pour appeler sa gouvernante qui se tenait dans la cuisine avec exagération comme si un incendie s'était déclaré. Alors, elle apparaissait au salon avec une expression au moins aussi exagérée. « Dites donc, où avez-vous fourré mon Wordsworth » tonnait-il. La vieille femme, les yeux gros comme des soucoupes, jetait un coup d'œil sur les rayons de la bibliothèque. Elle avait beau jouer l'étonnée, elle n'était pas moins sûre d'elle et immanquablement découvrait sur le champ le Wordsworth. Et elle disait « Here, sir », tout en le brandissant sous le nez du professeur comme si elle y prenait un malin plaisir. Il s'emparait du volume comme un voleur, tapotait la couverture défraîchie avec deux doigts, puis il reprenait « Voyez-vous, Wordsworth !» La vieille femme, arrondissant encore plus les yeux, redescendait à la cuisine. Le professeur tapait Wordsworth pendant deux ou trois bonnes minutes. Et en fin de compte, il n'ouvrait pas le livre qu'elle s'était donné la peine de lui trouver. Le professeur m'adressait parfois des mots. Son écriture était illisible pour moi. Comme ses courtes missives ne comportaient que deux ou trois lignes, j'avais tout le temps de les lire, de les relire, et malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas me prononcer sur leur teneur. J'avais pris le parti d'esquiver la difficulté en décidant une fois pour toutes que si le professeur m'écrivait, c'était pour décommander la leçon en raison d'un empêchement. Il arrivait, rarement, que sa gouvernante m'écrive en son nom. C'était alors tout ce qu'il y a de plus lisible. Le professeur avait une secrétaire bien commode. Il déplorait devant moi son écriture et il ajoutait que j'écrivais infiniment mieux que lui. Je me demandais avec inquiétude comment il pouvait se débrouiller avec ses manuscrits. Le professeur était l'auteur de « The Arden Shakespeare ». Je reste confondu quand je songe qu'un tel griffonnage a pu se transformer en caractère d'imprimerie. Et pourtant, le professeur, avec une belle indifférence, écrivait l'introduction, ajoutait des notes. Mieux, il lui arrivait même de me donner à lire la préface qu'il avait rédigée à propos de Hamlet, en me disant « Jetez donc un coup d'œil sur ce texte ». Quand je lui déclarais la fois suivante que cela m'avait beaucoup intéressé, il me chargea avec grand sérieux de présenter son livre quand je serais rentré au Japon. Le Hamlet qui figure dans Arden Shakespeare m'a été très profitable quand j'ai eu à faire un cours à l'université après mon retour au Japon. Je pense qu'aucun texte n'a touché de plus près le fond du problème que ses notes sur Hamlet, mais sur le moment je n'en étais pas vraiment conscient. Néanmoins, ce n'était pas la première fois que le professeur me remplissait d'étonnement avec son travail sur Shakespeare. Quand on tournait une clé dans le salon, on découvrait un petit cabinet de travail d'environ 6 tatamis. Si le professeur avait installé son nid si haut, à vrai dire, c'est que l'appartement faisait l'angle du 3e étage et à l'extrémité se trouvait le trésor du professeur. Sur une longueur de 35 cm environ, sur 30 cm de large, une dizaine de cahiers à couverture bleue s'alignaient. Dès qu'il avait un moment, le professeur couchait sur ses cahiers des phrases qu'il avait griffonnées sur des bouts de papier, et tel un avare qui amasse les pièces trouées, c'était le plaisir de toute sa vie de les voir grossir petit à petit. Je ne fus pas long à comprendre, dès que j'eus commencé à pénétrer dans ce bureau, qu'il s'agissait du manuscrit du lexique Shakespeare. On disait que pour mener à bien cet ouvrage, il avait abandonné sa chaire à l'université du Pays de Galles, et se libérait chaque jour pour se rendre au British Museum. Puisqu'il avait renoncé à sa chaire à l'université, il était concevable qu'il ne prenne pas soin d'un élève à 7 shillings. Toutes mes pensées étaient dirigées vers la réalisation de ce lexique. Il m'arriva de lui demander « Monsieur, je sais que vous rédigez un lexique, mais n'y a-t-il pas déjà celui de Schmitt ?» Alors le professeur, avec une expression qui dissimulait mal l'ironie, me tendit les volumes de Schmitt qu'il avait dans sa bibliothèque et me dit « Voyez plutôt !» Effectivement, les deux volumes de Schmitt étaient noirs de correction, pas une page n'y échappait. Je poussai une exclamation de surprise. Le professeur jubilait. Voyons, si c'était pour produire un travail d'une valeur égale à l'ouvrage de Schmitt, croyez-vous que je me donnerais tant de mal ? Et selon son habitude, il se mit à tapoter les pages noires de deux doigts réunis. Depuis quand avez-vous commencé ce travail ? Le professeur se leva, se dirigea vers une bibliothèque qui se trouvait du côté opposé et se mit à chercher fébrilement un livre, puis, comme il avait coutume de le faire, il appela d'une voix tonitruante « Jane, Jane, où est passé mon Dowden ?» Avant même qu'elle ait eu le temps de monter, il la harcelait déjà. Elle arrive, avec son air étonné, et comme toujours, « Here, sir, » dit-elle d'un air de blâme avant de redescendre. Alors le professeur s'embarre du livre sans le moindre égard et il crie presque « Oui, c'est là, Dowden cite mon nom ici, il écrit « Monsieur Craig, qui fait des recherches sur Shakespeare ?» Ce livre a été publié en 1870 et quelques. Comme mes recherches montent bien plus loin, je demeurais confondu devant la ténacité du professeur. Je saisis l'occasion pour lui demander « Et quand sera-t-il achevé ?»« Ma foi, je n'en sais rien. Tout ce que je peux dire, c'est que j'y travaillerai jusqu'à ma dernière heure, » répondit-il, en remettant le Dowden à sa place. Au bout de quelque temps, je cessai d'aller chez le professeur. Un peu avant, il m'avait demandé « Les universités japonaises n'ont-elles pas besoin de professeurs étrangers ? J'irais volontiers si j'étais jeune. » Lorsqu'il prononça ces mots, son visage prit l'expression d'un renoncement serein. C'est la seule fois que je vis son visage refléter un sentiment. Je voulus le réconforter et j'avançais « Mais n'êtes-vous pas jeune encore ?»« Oh non, tout peut m'arriver maintenant. J'ai déjà 56 ans, » me dit-il. Puis il conserva un air étrangement sombre. 2 années environ après mon retour au Japon, dans une revue littéraire qui venait de paraître, je découvris un article qui annonçait la mort de Craig. En 2 ou 3 lignes à peine, on mentionnait qu'il était un spécialiste de Shakespeare. J'ai posé la revue sur mes genoux et je me suis rappelé le fameux lexique que le professeur n'avait sans doute pas eu le temps d'achever et qui peut-être avait fini au panier. La pension. Mon premier logement était situé sur une hauteur dans le nord de la ville. La maison en briques rouges avec un seul étage me plut tout de suite par son aspect tranquille et c'est ce qui me décida à m'y installer malgré le loyer relativement élevé qui était de 2 livres par semaine pour une chambre du côté opposé à la rue. Monsieur K, qui régnait à ce moment-là sur tout le devant, parcourait alors l'Écosse en tous sens et ne rentrerait pas de sitôt, à en croire la maîtresse des lieux. La maîtresse des lieux était une femme aux traits accusés, avec des yeux caves, un nez retroussé, le menton pointu et les pommettes saillantes. Il était impossible à première vue de lui donner un âge, tant elle était au-delà de la féminité. Toutes les faiblesses humaines, aigreur, envie, entêtement, rigidité, doute, devaient avoir pris plaisir à se jouer de ce visage pour lui donner son aspect disgracieux. C'est ainsi que je m'expliquais les choses. Ses cheveux noirs, ses yeux noirs détonnaient dans ce pays du Nord. Pourtant, sa langue ne différait en rien de celle parlée par les Anglais. Le jour de mon installation, comme on m'appelait d'en bas pour prendre le thé, je descendis. Aucun membre de la famille n'était présent. Je me retrouvai seule, en face de la maîtresse de maison, dans l'étroite salle à manger orientée au Nord. Je parcourus du regard la pièce sombre où le soleil ne pénétrait jamais et remarquai dans un vase posé sur la cheminée des narcisses sans vie. Tout en me servant une tasse de thé accompagnée de pain grillé, elle se mit à me parler de choses et d'autres. Au fil de la conversation, elle saisit une occasion pour m'apprendre que l'Angleterre n'était pas son pays natal, mais la France. Puis tournant ses yeux noirs vers les narcisses qui s'étiolaient dans le vase en verre, elle ajouta que l'Angleterre, pays nuageux et froid, n'était pas doux à vivre. Sans doute voulait-elle me faire comprendre que même les fleurs ne s'y épanouissaient pas. De mon côté, tout en comparant intérieurement les narcisses qui avaient fleuri sans vigueur avec les gouttes de sang pâle qui coulaient sous les joues creuses de cette femme, j'imaginais les rêves pleins de douceur qu'elle devait évoquer en pensant à la France lointaine. Combien de 20 printemps s'étaient-ils écoulés, laissant plus que leur parfum évanescent dans le passé, qui se cachait derrière les cheveux noirs, derrière les yeux noirs de cette femme. Je voulus savoir si elle parlait français. Avant même d'avoir eu le temps de répondre non, elle prononça 2 ou 3 phrases dans la langue fluide du Sud. Je fus stupéfait d'entendre un si bel accent émaner de cette gorge décharnée. Ce soir-là, à l'heure du dîner, un vieillard chauve avec une barbe blanche prit place à table. Quand la demoiselle m'eut expliqué qu'il s'agissait de son père, je m'aperçus alors que mon hôte était un vieillard. Il avait une curieuse manière de s'exprimer. On s'en rendait compte immédiatement qu'il n'était pas anglais. J'en déduisis que le père de la fille avait traversé la mer et s'était installé à Londres. À ce moment, comme s'il avait voulu me devancer, il m'apprit qu'il était allemand. La réalité ne correspondait pas à ce que je m'étais imaginé et je me contentais de dire seulement « Ah bon ?» sans rien ajouter. Après être remontée dans ma chambre, je me mis à lire, mais j'étais extrêmement préoccupée par le père et la fille que je savais en bas. On ne trouvait pas entre eux la moindre ressemblance. Si la fille avait un visage anguleux, lui avait une face de lune, au milieu de laquelle il s'écrasait un nez charnu surmonté de 2 petits yeux. Il faisait penser à Kruger, le président de la République en Afrique du Sud. Ce n'était pas le genre de visage qu'on se réjouit d'avoir en face de soi. En outre, il avait une manière totalement dépourvue d'aménité de s'adresser à sa fille. Alors que ses dents, qui ne lui obéissaient plus, l'obligeaient à mâchonner, il n'en conservait pas moins quelque chose de brutal dans le ton. Le visage sévère de sa fille semblait se durcir encore lorsqu'elle s'adressait à son père. Je n'arrivais vraiment pas à croire que leur relation était normale. Je m'endormis en remuant ses pensées. Le lendemain matin, quand je descendis prendre le petit déjeuner, outre le père et la fille, présents la veille au soir, la table s'était augmentée d'un convive. Le nouveau venu était un homme d'une 40aine d'années, au teint vif et à l'air avenant. Quand je vis le visage de cet homme au moment où je pénétrais dans la salle à manger, j'eus pour la première fois l'impression de me trouver dans une société humaine vivante. La femme fit les présentations. « My brother !» dit-elle simplement. Comme je m'y attendais, ce n'était donc pas son époux. Mais les deux visages étaient si différents qu'il était presque impossible de les prendre pour frères et sœurs. Ce jour-là, je déjeunais en ville et regagnais la pension vers 3 heures. J'étais à peine montée dans ma chambre, on m'appela pour le thé. Ce jour-là aussi, il faisait gris. Quand j'ouvris la porte de la salle à manger sombre, je trouvai la maîtresse de maison seule, assise près du poêle, une tasse à la main. Comme on avait fait du feu, la pièce était quelque peu égayée. Le feu qui venait d'être allumé éclairait le visage de la femme et je remarquai que ses joues légèrement rouges étaient poudrées presque imperceptiblement. Debout sur le pas de la porte, j'eus la révélation profonde de la solitude qui se dissimulait sous ce phare. Elle me regarda comme si elle avait deviné mes sentiments. C'est ce jour-là qu'elle me conta l'histoire de sa famille. Sa mère avait épousé un Français. Il y avait de cela 25 ans, et de cette union était née une fille. Après quelques années de vie commune, son mari était mort. Elle avait épousé en seconde noces un Allemand, qui n'était autre que le vieillard que j'avais rencontré la veille au soir. Il tenait à présent une boutique de tailleur à Londres, dans le West End, où il se rendait régulièrement chaque jour. Le fils qu'il avait eu d'un premier mariage travaillait également dans ce magasin, mais une mésentente peu commune régnait entre eux. Bien que vivant sous le même toit, ils ne s'adressaient jamais la parole. Invariablement, le fils rentrait à une heure tardive. Il se déchaussait dans l'entrée, traversait le couloir en chaussettes pour n'être pas entendu de son père, s'enfermait dans sa chambre et se couchait. Sa mère, à elle, était morte voilà déjà bien longtemps. Avant de mourir, elle avait supplié son mari de veiller sur sa fille, mais toute la fortune qu'elle laissait était finalement allée au beau-père et elle-même ne disposait de rien librement, pas même un sou. C'est pour se faire un peu d'argent qu'elle s'était résignée à ouvrir une pension. Quant à Agnès, elle n'alla pas plus loin. Agnès était la fillette de 13 ou 14 ans qui aidait aux travaux ménagers. Il me sembla alors déceler une vague ressemblance entre le fils que j'avais vu ce matin et cet enfant. Celle-ci arrivait justement de la cuisine en apportant le pain grillé. « Agnès, veux-tu un toast ?» Sans rien dire, la fillette prit le pain qu'on lui tendait et disparut en direction de la cuisine. Un mois plus tard, je quittais la pension.